des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous êtes de retour sur le podcast La Zone payante en compagnie de Jean-Nicolas Gagné et de Stéphane Cadorette. Et cette semaine, Steph, à London, Ontario. Voir de l'ambiance. En Ontario, pour une fois, c'est le match de la Coupe Vanier. Et pour un ancien membre du Booster Club, du Rouge et Or, c'est toujours un plaisir de trouver mon équipe à l'Université Laval en finale de la Coupe Vanier, symbole de la suprématie du football universitaire canadien. Et pour en parler, mais on a un ancien champion, puis on veut savoir un peu ce que ça veut dire pour quelqu'un qui se promène toute sa vie après avec une bague, la Coupe Vanier. C'est Arnaud Gascon-Nadon qui est avec nous. Salut Arnaud!
Salut, ça va bien?
Salut Arnaud!
C'est un plaisir que tu sois avec nous. On va parler de la Coupe Vanier tantôt, si tu veux bien, Arnaud. Mais là, on va passer un petit peu... on va te passer le questionnaire habituel qu'on fait avec nos invités. On veut un peu connaître les origines de ta passion puis de l'amour que tu as eu pour le football. Puis on pose toujours la même question parce qu'on n'a jamais les mêmes réponses. On est toujours curieux d'entendre notre invité répondre à cette question-là. Mais quel est ton plus vieux souvenir de football? T'sais, à quel moment tu t'as vu du football à la télé ou t'as vu quelqu'un jouer au football, t'as fait « Wow, c'est ça que je veux faire
». Écoute, mon plus vieux souvenir de football, je te dirais que c'est les Rams contre les Titans, le Super Bowl, où ça a fini à la ligne de 1 avec Steve
Kevin Dyson, ouais, à la ligne de verge.
Kevin Dyson qui se fait arrêter à la ligne d'une verge à une passe de Steve McNair avec Kurt Warner, je crois qu'il jouait pour les Rams. Ça, à mon souvenir, c'est mon plus vieux souvenir vraiment très clair de football. Puis je sais que j'étais déjà un fan parce que on avait fait une tradition, moi puis mon père, à chaque fois qu'on faisait le Super Bowl, il faisait ses hamburgers avec des œufs dedans, puis c'était bon, là, si on mangeait ça avec de la moutarde forte. Puis en tout cas, on avait une affaire du Super Bowl qu'on faisait tout le temps, où on sortait la table de la cave, tu sais, puis on écoutait ça devant la télé, puis c'était comme le Super Bowl avec des chips puis des cokes avec la bouteille en vitre. Tu sais, les cokes, là, les petits cokes, là, ouais, ça, c'est les vrais de vrais, ça.
Fait que là, tu t'en achètes. Est-ce que c'est l'année, là, je vais faire appel à la mémoire de Steph, mais est-ce que c'est l'année du Music City Miracle, ça?
Non.
C'est la fameuse latérale? Non, c'était avant ça.
C'était la latérale je pense que c'était à Frank Wycheck sur le côté, sur un punt return. Ça se peut-tu? Est-ce que je dis des
niaiseries? C'est un botté d'envoi à la fin de la game contre les Bills en série, ça.
Mais est-ce que c'est la même année
que... la même année, là, ça, c'est une très bonne question, Jean-Nic, là, mais c'est dans ces années-là.
Je vais vérifier pendant qu'on se parle, mais sinon, évidemment, ce souvenir-là qui avait fini à une verge de la zone début, tout le monde s'en souvient, sauf Tom Hanks qui était sur une île déserte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin du film où Tom Hanks est pris sur une île, il a tout raté, ça, c'est un partisan de Tennessee. Il se fait raconter qu'il était resté à une verge des buts du Super Bowl.
Ah, wow.
C'est vraiment un événement marquant, ça, cette verge qui manquait.
Ouais. Et
l'autre question aussi qu'on se pose souvent quand on a des joueurs ou des gens ou des anciens joueurs comme invités, c'était quoi ton feeling? Tu sais, la première fois que tu as mis des épaulettes, puis t'es allé au contact, quel est ton feeling? T'sais, est-ce que tu t'es dit, hey, c'est ça que je veux faire aussi quand t'as vécu ce moment-là?
Pas du tout. Non, je te dirais que ça me foutait les jetons. À toutes les fois que j'arrivais au vestiaire, mettre l'équipement, ça me stressait. Aller au contact, ça me stressait. Tout me stressait. De ce sport-là, je comprenais pas pourquoi j'étais là à tous les jours. Ça m'énervait. J'en parlais tout le temps avec mes parents. Je disais, j'aime pas ça, ça m'énerve. Mais j'étais tiraillé parce que j'étais bon. Puis en même temps, je trouvais que c'était extrêmement stressant comme sport, vraiment. Puis écoute, ça m'a tiraillé longtemps parce que j'ai même arrêté carrément de jouer au football après ma deuxième année de football. J'ai dit à mes coachs, j'ai dit, moi, je m'en vais. Je retourne dans mes anciens amours de jouer au soccer. Puis il a fallu que je quitte un an en secondaire 2 pour me rendre compte que ça me manquait puis je voulais revenir à ce sport-là. Donc le foot a toujours été moi, souvent, c'est ça, que quand j'ai le temps d'en parler, c'est une relation d'amour-haine, le football. C'est vraiment, c'est ton ex-blonde qui était extrêmement jolie, mais qui te rendait complètement fou, genre. T'sais, c'est vraiment comme, t'en dors pas la nuit, mais t'as hâte de te lever le matin parce que c'est comme une drogue que t'arrives plus à arrêter de prendre. Puis un des livres que j'ai lu qui m'a le plus marqué, c'est Open d'André Agassi. J'ai lu ce livre-là. Ah ouais. Il y a quelques années, écoute, la première page là, sans l'histoire de son père mais c'est exactement moi. C'est, il dit I really dislike tennis là. Il utilise le mot en F là, genre qui finit en ing. Puis c'est ça, moi le foot pendant des années, c'était I don't like football. Mais genre tu reviens tout le temps. Puis à un moment donné, c'est quand j'ai vraiment le temps d'en parler là, c'est est-ce que c'est l'amour du football que j'aimais autant? Est-ce que c'est le fait d'être bon au football? Est-ce que c'est commencer à comprendre aussi? Parce qu'à un moment donné, j'ai compris c'était quoi le foot, puis je suis devenu bon. Puis le contact me faisait plus peur. Puis là, c'était tout avait pris son sens. Mais ça a jamais été, comme tu as dit, là, t'sais, l'amour fou. Là, t'sais, ça n'a pas été comme, j'ai mis les épaulettes, puis c'est fait, ah, c'est ça que je veux faire dans la vie. Jamais. Même jusqu'à genre 19 ans, j'ai jamais dit, ah, c'est ça que je veux faire dans la vie. T'sais.
Arnaud, dis-moi, quand t'es arrivé avec le Rouge et Or, là, c'est un niveau qui est quand même beaucoup plus sérieux, tu te rapproches des rangs professionnels. Le Rouge et Or, qui est une puissance perpétuelle au Canada, tu sais, sont quasiment abonnés à Coupe Vanier dans ces années-là. Est-ce que cette dualité-là en toi d'amour-haine-football continuait quand même?
Moins pire, je te dirais. Écoute, je pourrais te raconter des histoires, même professionnelles. Antoine Pruneau à Ottawa, qui est devenu mon bon ami, puis Antoine... On se retrouvait beaucoup sur certains angles. Puis Antoine, il venait me voir avant un match, puis il venait à côté de moi dans le vestiaire, puis il disait, puis attends-tu? Je disais, pas en tout. Puis il disait, ben moi non plus. Je disais, bon, reste ici, on va s'en jaser un peu. Puis là, on riait, tu sais, puis on partait à rire, parce que c'était comme, c'est ça, tu sais, ça nous tiraillait tout le temps. On tripait, là, on avait du fun, puis t'aurais dû nous voir à la fin de la game. On était les gars qui avaient le plus eu du plaisir. Mais le fait
c'est quoi? Est-ce que vous aviez le trac, peut-être? Que
ben
vous aviez le trac?
Ben
vous aviez peur?
Ben oui, ça fait partie de ça. Tu sais, c'est le film Gladiateur où il est en dessous de l'arène puis il entend les bruits puis les portes. Tu vois juste la lumière, là, l'arme qui est devant lui qui tourne puis il sait que la guerre s'en vient. Mais ce jour-là, ça y tente pas, tu sais. Il est comme, Colin, me semble, ça me tente juste pas de faire ça. Je peux pas croire que c'est ça que je fais dans la vie, tu sais. Des fois, c'est ça qu'on avait comme réflexion. Mais à Laval, c'était pas si pire, je te dirais, parce que le niveau était pas tout le temps hyper relevé, tu sais. Fait que les matchs contre Montréal, ça, j'avais vraiment hâte. Les matchs de la Coupe, j'avais vraiment hâte. Mais on avait des fois des matchs dans l'année où, tu sais, c'était pas très stressant parce que la compétition était pas tout le temps là. Mais quand t'es jeune, c'est hyper compétitif tout le temps, t'as pas vraiment le temps de te détacher. Puis au professionnel, ben c'est compétitif à tous les matchs, donc ça, c'est sûr que ça... Le niveau avait un lien direct avec le niveau de trac et d'anxiété que le football peut te procurer.
Bon, mais parlons-en, parce que là, en fin de semaine, c'est la Coupe Vanier, une Coupe Vanier à laquelle tu as participé. Le Rouge et Or va s'y retrouver contre les Huskies de Saskatchewan. Avant de parler du match, là, comment tu te sens quand tu es un joueur puis que tu t'en vas chercher un match, ou en tout cas, tu t'es rendu à la Coupe Vanier, puis tu peux faire un peu l'histoire de ton université en remportant une Coupe?
Ben moi, je trouve que c'est vraiment la raison pour laquelle tu joues pour une université. Tu sais, au départ, tu sais, moi, quand j'ai quitté le Cégep du Montréal, j'ai été à l'Université Rice, j'avais une bourse d'études. C'était pas nécessairement relié au cœur, tu sais, c'était pas vraiment relié à quelque chose d'émotif. Quand j'ai été à l'Université Laval, j'ai signé parce que j'ai voulu aller à l'Université Laval. Tu sais, c'est là que je voulais aller. J'aurais pu aller à une autre université au Canada. J'ai voulu aller là-bas. Là, tu te mets à défendre les couleurs. Tu rencontres des gens dans la rue. Ça devient quelque chose de très émotif. Tu te rends compte que tu es imprégné d'une histoire de défendre les couleurs d'une école. Puis c'est ton école contre la leur. Tu sais, puis j'ai choisi mon école. Puis je porte mon emblème. Puis tu sais. Il y a tout ça qui est relié derrière ça dans un match universitaire de Coupe Vanier. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, je te dirais que c'est extrêmement motivant. Puis moi, je me rappelle que tu sais, c'était vraiment ces matchs-là pour lesquels je jouais. C'est là où je me sentais vivre au maximum, de jouer dans ces matchs-là, là, la Dunsmore, la Dunsmore, la Mitchell, la Lutech, puis la Coupe Vanier. On est quand même, moi, j'ai été trois fois en trois ans. Donc, ça a été, on en a perdu une, mais 2010, on a gagné. 2011, on a perdu. 2012, on est retourné, puis on a gagné. Fait que, mine de rien, j'ai repensé à ça cette semaine. J'étais comme, j'étais allé trois fois, moi, à la Coupe Vanier. J'avais comme oublié un peu que il y a pas une année où on y est pas allé. Mais non, écoute, je me souviens encore du match à, le match 2012, là, à Toronto contre McMaster, où on savait qu'il allait y avoir 38 000 personnes dehors qui nous détestaient parce que Toronto est à 40 minutes de Hamilton. Mm-hmm. Je te dirais que là, c'est là que tu me veux dans ton armée. Là. J'aurais été, c'est là où c'est. Moi, j'étais à 100% à l'aise, là, le sourire fendu jusqu'au visage. J'étais exactement à la bonne place. C'était comme, c'est là où je me sentais le plus vivre. Là. C'est des moments ça que j'oublierai jamais de ma vie. Puis c'est extraordinaire. Puis comme je dis, il y a quelque chose de très émotif dans le football universitaire, football scolaire, football amateur. Tu sais, football amateur, c'est très émotif comparativement au football professionnel.
Arnaud, il y en a plusieurs pour qui la puissance au Canada cette année, c'était Western, que Laval vient d'éliminer à la Coupe Mitchell. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour le match de la Coupe Vanier, justement, là, du côté de Laval? Je comprends qu'avec Glenn, son temps de bonne main, là, avec Glenn Constantin, mais le fait que ce soit finalement la finale, la vraie finale avant la finale, ce qu'on a vécu la semaine passée, puis qu'il y a un petit relâchement émotif pour le GR.
Je suis d'accord avec toi, oui, fort certainement, puis... tu sais, d'une certaine façon, Glenn est comme le gars qui fait en sorte souvent de s'assurer que les joueurs n'ont pas la grosse tête, tu sais. Puis moi, j'étais sorti la semaine passée sur une de mes plateformes, mettre au défi un peu le Rouge et Or, parce que je trouve que depuis plusieurs années, je trouve que le Rouge et Or joue pas à son plein potentiel. Puis ça doit être difficile pour eux autres de tout le temps avoir faim, tu sais. C'est comme t'es tellement, t'as tellement gagné, puis... Tu sais, Glenn, je repensais à ça quand moi je l'avais fait. Quand quelqu'un de l'externe arrive et dit « Hey, j'ai pas l'impression que tu joues à ton plein potentiel. J'ai l'impression que ça se pourrait que tu perdes ce match-là parce que tu joues pas à ton plein potentiel. » C'est facile, Glenn se sert de ça et il dit « Garde, il y a du monde qui nous croit pas. » Mais quand les gens disent pas ça, parce que la plupart des gens disent tout le temps « Laval, c'est les meilleurs, c'est les plus forts, c'est les plus beaux. » Tu sais, c'est ça qu'on dit finalement tout le temps. Puis c'est ça dont on a peur pour la Coupe Vanier finalement, parce qu'on dit « Ils ont battu Western, c'était la meilleure équipe, etc. » Glenn est toujours là pour leur rappeler à quel point ils sont pas si bons que ça. Fait que, si ça vient pas de l'extérieur, croyez-moi que ça vient de Glenn.
Si tu avais à te prononcer sur ce match-là, puis d'ailleurs, pas si tu avais, j'espère que tu vas te prononcer sur ce match-là. Allons-y avec ta prédiction, Arnaud.
Ben, pour moi, j'ai été tellement impressionné de la performance du Rouge et Or contre Western. J'avais peur que Western brasse la cage du Rouge et Or. J'avais peur que le Rouge et Or pensait tellement au carabin depuis plusieurs années qu'ils avaient oublié c'était quoi le football à l'extérieur du Québec. Puis que c'est du bon football. Puis de jouer à Western... j'avais vraiment peur de ce résultat-là, de voir les gars comme être pris de court par la férocité de Western Ontario. Écoute, j'ai tellement été impressionné de leur victoire. J'ai vu tellement de joueurs se lever. J'ai vu Kevin Mittal se lever. J'ai vu Muganda se lever. J'ai vu Alec Poirier jouer d'une façon qui me rappelait les vieux secondaires de l'Université Laval du temps à Éric Maranda, de Steve Landry, Martin Gagnon, les vieux, Kelly Heller, les vieux secondaires qui jouaient vraiment dans la boîte défensive. Là. Je dirais que Laval va gagner la Coupe Vanier. Ça va être un match qui va être relevé, évidemment. Je pense que Saskatchewan sont encore meilleurs que Western.
Qui faut regarder du côté des Huskies? Qui peut nous battre?
Ben écoute, moi c'est leur ligne à l'attaque, honnêtement. C'est la ligne à l'attaque, ils sont méchants, ils sont immenses. C'est pas le genre de ligne à l'attaque qu'on a nulle part ailleurs que là-bas. Ils ont dominé physiquement l'année passée durant les séries éliminatoires. Ils ont été méchants. Là, c'est pas la force nécessairement du Rouge et Or, le front défensif. Même s'ils ont bien joué en fin de semaine, s'ils ont fait collectivement un bon travail, il y a pas de joueurs à la Mathieu Betts ou d'autres joueurs dominants là, tu sais, dans le front de Laval. Ça va se passer collectivement. Moi, j'ai hâte de voir la ligne à l'attaque de Saskatchewan, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire avec le front défensif de Laval. Parce que je pense que l'offensive de Laval a tellement bien joué contre Western, je pense qu'ils se sont trouvés, puis ils vont être capables de bouger le ballon. C'est à savoir si la défensive de Laval va être capable d'arrêter collectivement l'offensive de Saskatchewan.
Donc Arnaud, maintenant qu'on a fait le tour de la Coupe Vanier, écoute, c'est connu. On sait que tu es un chaud partisan des J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Tu parlais d'émotion tantôt. J'aimerais ça que tu me dises quelles émotions tu ressens par rapport à Zach Wilson en ce moment.
Oh, écoute, Zach. Écoute, j'en suis, ça fait quelques semaines que je pense à ça. tu sais, j'ai l'impression que Zach Wilson, il y a deux affaires là-dedans. J'ai l'impression que Zach est un peu, il me fait penser à Johnny Manziel un peu. Je pense qu'il vient d'un milieu très très riche. Puis j'ai entendu sa conférence de presse à la fin du match qui dit non, moi ça, je prends aucune responsabilité là-dedans. Je comprends pourquoi il a dit ça parce que c'est pas, tu sais, c'est un travail d'équipe. Je comprends, mais genre, mm-hmm. Je me disais, ça aurait tellement été simple, juste dire oui, c'est de ma faute, puis je vais essayer de m'améliorer. Je serais curieux de voir c'est quel genre de gars, personnellement. Moi, il y a une saison morte qui m'a fait beaucoup plaisir. J'ai beaucoup aimé sa saison morte, mais j'ai un peu plus de la misère avec sa saison. Mais Zach, je me demande si on n'est pas un Jesperi Kotkaniemi, tu sais. On l'a vu un peu. On a l'impression que ça marche ou ça fonctionne pas parce que
on lui donne des chances parce qu'il est jeune.
Ben c'est ça, tu sais. Mais là, est-ce qu'on fait juste faire garde? Je pense que ça fonctionnera pas. Puis on bouge de ce gars-là à un moment qui a encore un bon temps pour bouger de lui. Ou est-ce que les Jets vont s'acharner à vouloir essayer de, parce qu'il coûte pas cher pendant 5 ans. Là, il est à sa deuxième année. Tu sais, c'est sûr que ça vaut la peine monétairement parlant d'essayer de faire en sorte que Zach Wilson joue bien dans son année 3, 4, 5. Mais en ce moment, j'ai l'impression que à chaque fois que tu regardes un entraîneur-chef, c'est mon problème un peu avec Matt LaFleur maintenant, c'est que tu dis est-ce que tu es capable, si admettons tu es un entraîneur de la défensive, est-ce que ta défensive joue à un haut niveau? Tu sais, est-ce que tu es un entraîneur de l'offensive comme Mike McDaniels à Miami? Est-ce que l'offensive de Miami est meilleure cette année ou l'année passée? Elle est vraiment meilleure cette année. Mike McDaniels fait son travail. Robert Saleh, quand il est rentré, ça a été un peu semi la première année, mais je trouve que cette année, je trouve que la défensive est extraordinaire. Puis elle joue au niveau qui avait laissé celle des 49ers quand il est parti. Donc, je retrouve toutes les mêmes empreintes des 49ers vers les Jets. Mais là, il manque l'attaque. Il manque le Jimmy G, le Jimmy Garoppolo de les 49ers qui est juste capable d'en faire assez pour faire en sorte que les Jets en ce moment pourraient être 8-2, 7-3 assez facilement. Tu sais, je pense qu'en fin de semaine, c'est vraiment un match. Il n'y avait aucune raison de rater ce match-là. Les Jets pourraient être 7-3 en ce moment facilement s'ils avaient un Jimmy Garoppolo. Donc, je pense que c'est la dernière année où Zach Wilson peut être en développement. Si ça peut être mon opinion plus claire, là. Je pense prochaine. Puis après ça, c'est Joe Douglas est très agressif comme directeur général. Il est très agressif depuis qu'il est rentré. Là, tu as une saison morte. Si tu fais rien, tu rentres personne dans le building, ça veut dire que tu lui fais encore confiance une troisième année. Puis là, tu utilises une année de plus à Robert Saleh, une année de plus à Quan Alexander, une année de plus à CJ Mosley, à Sauce Gardner, tu sais, tous tes joueurs en défensive aussi. Donc, c'est à prendre en considération aussi là-dedans à quel point tu es pressé. Fait que tu sais, ça prend en considération, mais les Jets sont pas loin, je trouve. Pour vrai, la défensive joue.
Ben surtout que les partisans des Jets ont mangé leur pain noir quand même depuis presque aussi longtemps que c'est ça. Là, disons que presque aussi longtemps que Tom Brady a été dans la division.
Ouais.
Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir été avec nous. Bon match de la Coupe Vanier en fin de semaine. On va suivre ça, puis merci, on espère aussi S'en parler bientôt. Ciao.
Ben oui, au plaisir. Salut.
Salut Arnaud, merci.
Salut, merci les gars.